Après avoir rejeté 3 fois l'accord conclu par la première ministre Theresa May avec Bruxelles et voté la semaine dernière contre 8 propositions parlementaires pour tenter de trouver une solution, lundi soir, le Royaume-Uni se trouvait à nouveau dans l'impasse à 10 jours de sa sortie de l'Union européenne après le rejet par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l'accord du gouvernement. Mercredi, Theresa May a même rencontré son principal opposant politique, chef de la très fidèle opposition de Sa Majesté, selon son titre officiel, Jeremy Corbyn, pour une mission de la dernière chance jusqu'à ce nouveau rebondissement hier, quand Theresa May a demandé au Conseil européen un report du Brexit jusqu'au 30 juin. In or out, être ou ne pas être européen, telle est donc la question qui occupe une partie de l'Europe depuis près de 3 ans, à moins que cette question n'ait au fond 3 siècles. Bonjour Robert Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des relations internationales et de l'Europe, et vous venez de faire paraître un livre éclairant sur l'histoire de ces relations, être ou ne pas être européen. Je vous ai donc emprunté votre phrase, point d'interrogation, avec ce sous-titre « Les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit », un livre qui vient donc de paraître aux éditions Belin. Mais dites donc, ça va durer combien de temps encore? Comment comprendre cet interminable imbroglio?
Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas encore.
Puisque ça fait 3 siècles que ça dure, c'est ça?
Ça fait 3 siècles que ça dure. On pourrait même, si on s'en réfère à Shakespeare, dire que ça dure depuis les Romains, depuis la Bretagne romaine, ce qu'on appelle la Bretagne romaine, la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, la Bretagne d'outre-mer, avec ce roi Cymbeline mis en scène par Shakespeare dans sa pièce de 1611, et qui voulait déjà faire un Brexit. En effet, il est depuis, la Bretagne est depuis quelques années, depuis César conquise par les Romains, dans l'Empire romain. Là, on est à l'époque d'Auguste, quelques décennies plus tard, et Cymbeline dit nous payons le tribut à l'Empire romain, donc être dans l'Empire romain, c'est trop cher. Et à quoi ça sert? Et effectivement, après quelques hésitations, il y a son fils Cloten qui lui conseille de sortir de l'Empire romain, mais finalement il va se rallier à l'avis de sa fille Imogène qui lui dit qu'il faut au contraire rester, et il change d'avis. Donc vous voyez, ces changements d'avis, et là c'est intéressant pour le scénario actuel, parce qu'au fond le Brexit est envisagé, mais il y a la sortie du Brexit avant le Brexit lui-même. En d'autres termes, le Brexit ne se fait pas. Donc ce scénario aussi est évidemment possible. Alors pourquoi ce malaise, pourquoi ce va-et-vient perpétuel? Disons que depuis 3 siècles, et là je reviens donc au XVIIe siècle, la Grande-Bretagne envisage comme horizon principal le monde. Hein, la conquête coloniale, l'Empire, puis cet Empire sur lequel le soleil ne se couchera jamais. Et donc l'Europe, dans cette vision, paraît un horizon un peu restreint, un peu mesquin. Et pourtant,
C'est pas assez grand,
voilà. Et on trouve cette nostalgie aujourd'hui. On trouve cette nostalgie. Beaucoup de Brexiteurs se disent, voilà, nous, c'est le monde qui nous intéresse. C'est pas cette petite Europe.
C'est pas seulement le statut insulaire. Ce serait réducteur, alors.
Oui.
Dire que c'est l'explication, c'est le statut insulaire de l'île.
C'est pas seulement la géographie, effectivement, qui l'explique. Parce qu'après tout, les Écossais qui sont dans la grande île ont voté à 62% contre le Brexit. Les Irlandais du Sud, la République indépendante, est dans l'Union européenne et ne veut vraiment pas en sortir. Or, l'Irlande, c'est une île. Les Irlandais du Nord, qui sont dans le Royaume-Uni et qui veulent rester, malgré tout, veulent aussi rester dans l'Europe. Donc, ça n'explique pas tout. C'est vraiment cet attachement, peut-être un peu plus chez les Anglais que chez les autres nations du Royaume-Uni, attaché à cette grandeur impériale, cette grandeur mondiale. Cela étant, c'est là que ça se complique, c'est que l'Europe, même si elle est moins utile, elle est quand même nécessaire, parce que les Britanniques ont toujours eu peur d'être envahis. Hein, 1066, c'est la dernière fois où ils ont été envahis par les Normands, ils ne veulent plus cela. Et pour ainsi, ils participent à ce qu'on appelait le système européen, ils ont même contribué à le construire, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un équilibre des puissances pour qu'aucune puissance hégémonique soit tentée d'envahir les îles britanniques. D'où ces coalitions organisées par le Royaume-Uni contre Louis XIV, contre la France révolutionnaire, contre Napoléon, contre Guillaume II, contre Hitler. Mais dans ce système européen, il y a aussi des entrées et des sorties du Royaume-Uni. Quand la sécurité va bien, eh bien le monde et l'Empire sont des priorités. Et quand la sécurité est au contraire en danger pour les Britanniques, eh bien, ils interviennent.
Et cet engagement mesuré, hein, le suffisamment mais pas trop de la Grande-Bretagne en Europe, a été théorisé même par David Hume. C'est ce qu'on appelle le balance of power.
Le balance of power, l'équilibre des puissances dont je parlais. Et c'est, si vous voulez, c'est mis en pratique avant, contre Louis XIV, dès la fin du XVIIe siècle, et c'est théorisé par David Hume. Et ça sera vraiment le fil directeur de la politique britannique.
Il y a eu les mêmes tergiversations, Robert Frank, pour l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne en 1973.
Tout à fait. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a pu croire à un moment que la France et la Grande-Bretagne, ensemble, formeraient un couple pour construire l'Europe. Et ça a échoué. Hein. Les Britanniques n'étaient pas prêts. Les travaillistes au pouvoir, à l'époque, ne voulaient pas entendre parler de l'Europe. Donc, la France va finalement faire l'Europe, non pas avec ses amis, mais avec son ancien ennemi. Ça sera le couple franco-allemand, c'est-à-dire la déclaration Schuman de 1950, qui met en place la Communauté européenne de charbon et d'acier à 6, puis le marché commun, etc., etc. Or, précisément, au moment où le marché commun se négocie, et lorsqu'il est conclu, les Britanniques vont, en 1959, deux ans après le traité de Rome qui institue le marché commun, forger une association européenne de libre-échange, c'est-à-dire une organisation concurrente, l'Europe des 7, de l'AELE, face à l'Europe des 6. On était en 59. Et dès le mois d'août 1961, le même Premier ministre Macmillan change d'avis et finalement demande l'entrée au marché commun. Ça ne marchera pas, puisque deux ans plus tard, il y aura le premier veto du général de Gaulle, puis un autre veto en 67. Mais vous voyez comment, entre 59 et 61, il y a eu un revirement. On peut mettre là en perspective ce pragmatisme britannique, c'est-à-dire que la City et les milieux d'affaires ont fait valoir à Macmillan, écoutez, c'est bien gentil tout ça, mais on fait plus de commerce avec l'Europe des 6 qu'avec nos 6 partenaires de l'Europe des 7, d'une part. D'autre part, regardez les taux de croissance. C'est du 5%, du 6% dans l'Europe des 6, dans le marché commun. C'est autour de 2% dans l'Europe des 7. Oui. Donc une sorte de pragmatisme britannique qui explique aussi beaucoup de choses. Je crois que c'est dans la culture politique britannique. Il faut voir ce qui est utile. Hein, comme le roi Cymbeline, le roi breton, est-ce que c'est utile ou non d'être dans l'Empire romain. Mais une utilité qui est vue à court terme, sans regarder ce qui se passe un quart d'heure, une demi-heure ou un an plus tard. Et là, il y a peut-être une opposition à faire entre un pragmatisme britannique à court terme et un réalisme continental qui essaye d'anticiper un peu l'avenir pour voir ce qui est intéressant et où est l'intérêt général.
Et en même temps, Robert Frank, on retrouve dans ce que vous dites, on retrouve aujourd'hui toute cette histoire longue culturelle autour des deux points d'achoppement. La question des frontières, hein, de ce Royaume-Uni, avec l'Irlande en particulier, l'Irlande du Nord, et puis la question de l'union douanière. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit y être avec des accords commerciaux? Donc la question économique, au fond, qui dure depuis 3 siècles, mais qui est effectivement encore très présente aujourd'hui.
Il y a une question d'identité et une question économique. La question d'identité, ce sont les identités au sein du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a une spécificité extraordinaire. Vous avez 4 nations, les Anglais, les Gallois, les Écossais et les Irlandais, du moins maintenant les Irlandais du Nord, et une sorte de nation supranationale. Oui, c'est un peu paradoxal, c'est un oxymore, c'est-à-dire le Britishness, hein, le fait d'être tous britanniques. Et là, les Brexiteurs n'ont pas anticipé sur un point, c'est-à-dire que si le Brexit est dur, c'est-à-dire s'il y a effectivement des frontières partout, des droits de douane, eh bien il y aura une frontière entre les deux Irlandes. Ce qui est préjudiciable à la paix qui dure depuis 1998, après une guerre civile de 30 ans, et beaucoup craignent ce retour de la frontière entre les deux Irlandes qui pourrait ramener, si vous voulez, des tensions et des violences. Et c'est impensable que les Brexiteurs n'aient pas prévu ce problème. Alors bien sûr, le problème est réglé, et là on passe à l'économie, si les Britanniques restent soit dans le marché unique, c'est-à-dire non seulement l'union douanière, mais aussi la fin des barrières en matière de circulation de personnes. Mais les Brexiteurs n'en veulent pas parce que leur campagne, c'était précisément contre tous ces migrants de l'Union européenne, les Polonais, etc., avec des acceptations de bas salaires. Donc, autre solution, l'union douanière. Et ça aussi, ça peut régler la question de la frontière. S'il y a une union douanière, il n'y aura pas de frontière entre les deux Irlandes. Mais ça pose une autre question qui soulève la colère des Brexiteurs durs. Union douanière, ça veut dire que la Grande-Bretagne n'est pas maître de ses tarifs extérieurs vis-à-vis des pays tiers. Donc elle n'a pas cette souveraineté, précisément une souveraineté réclamée, y compris dans les négociations commerciales. Et c'est encore pire. Être dans l'union douanière sans être dans l'union européenne, ça veut dire quoi? La Grande-Bretagne n'est pas dans les institutions européennes, donc elle n'a pas le droit de discuter de l'avenir de cette union douanière. Vous vous rendez compte? La Grande-Bretagne, qui se veut grande, et les Brexiteurs, bien sûr, insistent sur cette grandeur, il ferait partie d'une union douanière dont les décisions ne lui appartiennent pas. Voilà donc les énormes contradictions, le piège dans lequel ils sont enfermés, et on comprend que Theresa May a du mal à résoudre toutes ces contradictions.
Est-ce que vous comprenez aussi pourquoi elle cherche à reculer la sortie? Est-ce qu'elle veut gagner du temps? Est-ce que la question des élections européennes se pose de façon cruciale aujourd'hui? Puisque si elle ne sort pas de l'Union européenne avant la date des élections le 26 mai, la Grande-Bretagne devra organiser ses élections aussi.
Je pense que Theresa May joue sur la peur. Tout le monde a peur du no deal. Parce qu'effectivement, ce no deal risque d'apporter des perturbations, des turbulences extrêmes pour toutes les économies, y compris les économies de l'Union européenne, mais plus encore pour la Grande-Bretagne. Mais elle espère du coup que ça va faire peur et que l'Union européenne va céder. Elle se rend pas compte que l'Union européenne est assez unie face à elle. Donc effectivement, il y a cette date qui était le 29 mars, qui est ramenée maintenant au 12 avril, mais c'est bientôt. Et c'est vrai que le no deal peut être une perspective. Donc si elle a un report, elle croit avoir plus de temps, si vous voulez, pour négocier ça. Tout va dépendre de sa négociation avec les travaillistes pour arriver à ce Brexit finalement soft d'union douanière. Mais pour arriver à ça, il faut aussi compter avec les Européens qui décident à l'unanimité. Déjà, l'Élysée a bien remarqué que s'il n'y a pas de perspective nouvelle, c'est ça qui est prévu, s'il n'y a pas de perspective nouvelle, pourquoi accorder ce report? Si report il y a, on arrive à une sorte d'absurdité. Alors qu'il est question de Brexit, cela obligerait les Britanniques à voter aux élections européennes. Alors évidemment, dans ces élections européennes, c'est complètement absurde. Il risque d'avoir une forte abstention. Ce dont les Brexiteurs ne se rendent pas compte, c'est qu'il y aura peut-être plus d'abstention chez les Brexiteurs, ceux qui vont voter le livre, puisque à quoi bon être dans le Parlement européen si on ne veut pas être dans l'Europe? Est-ce que ça peut avantager un vote plus pro-européen? C'est aussi une perspective. Mais ça montre bien qu'on est dans une contradiction extrêmement difficile à résoudre.
Qui a à y perdre le plus, nous ou eux, Robert Frank?
C'est très difficile à dire, mais franchement, je pense que ce sont eux. C'est vraiment le Royaume-Uni qui a beaucoup à perdre, parce qu'il y a sans doute une illusion de croire que le Global Britain, cette Grande-Bretagne mondialisée, puisse se mettre en place facilement. Le pari peut évidemment être gagné, mais j'aimerais attirer l'attention sur une contradiction, c'est que si la Grande-Bretagne devient un paradis fiscal, si elle devient une sorte de Singapour, d'abord une cité-État, c'est pas la même chose qu'un grand pays comme la Grande-Bretagne, mais supposons que cela marche. Ça veut dire qu'il faut diminuer les impôts sur les sociétés, il faut diminuer donc les impôts sur les riches. Les Britanniques sont quand même attachés à l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'il faut augmenter des autres impôts, en particulier les contributions indirectes qui pèsent sur les classes populaires. Il faut diminuer les dépenses publiques, donc les services publics. Or, il faut bien comprendre qu'une grande partie de l'électorat du Brexit ressemble un peu aux gilets jaunes avant la lettre, et précisément auront du mal à accepter tout cela. Et là, on est dans une spécificité britannique, à savoir une contradiction entre les élites qui demandent le Brexit et les classes populaires qui ont voté pour le Brexit. Les élites qui ont demandé le Brexit sont mondialistes, hein, alors que les dirigeants des partis populistes continentaux ne sont pas des mondialistes. Mais l'électorat elle-même, de part et d'autre de la Manche, c'est-à-dire les perdants de la mondialisation. Donc il y a un risque de fracture sociale après le Brexit, entre les électeurs du Brexit et ceux qui ont poussé à ce départ de l'Union européenne.
Est-ce que cette valse hésitation qui dure depuis près de 3 ans maintenant, malgré tout, et justement malgré le fait que c'est une histoire très longue et que vous nous racontez, Robert Frank, est-ce que cette valse hésitation peut se terminer avec le Brexit? Autrement dit, si vraiment Brexit il y a, au bout du compte, certains en doutent aujourd'hui, hein, est-ce que vous pensez que ça peut mettre un point final à toutes ces tergiversations et à ce rapport extrêmement complexe de la Grande-Bretagne, même du Royaume-Uni aujourd'hui, à l'Europe?
Franchement, je ne pense pas. Si vous voulez,
elle est capable de sortir et puis de re-rentrer.
Ouais, les Britanniques se sentent européens, puisqu'on le croit. Mais c'est vrai qu'ils se sentent à part. Du coup, quand ils sont dedans, c'est vrai qu'ils sont mal à l'aise. Ils regardent vers la porte de sortie. Mais quand ils sont dehors, ils se sentent aussi mal à l'aise, voire plus, parce qu'ils ont peur d'être marginalisés. Et donc, ils veulent rentrer. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi ce courant alternatif cesserait. Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Macmillan, en 59, ne veut pas du marché commun. Et en 61, il demande d'y entrer. Mais j'aurais presque un espoir, si vous voulez. C'est-à-dire que l'Union européenne, si le Brexit se fait, ça peut être bon pour elle. Puisque, sans les Britanniques, elle aurait un peu plus de chances de se réformer, de s'approfondir, de pas avoir cet obstacle britannique à toute la volonté de changement. Et si elle se réforme, elle ira mieux. Et si elle va mieux, eh bien, le pragmatisme des Britanniques fera peut-être qu'ils voudront y rentrer.
Ils vont rentrer à nouveau.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Mouret.
Notre invité est historien de l'Europe, Robert Franck. Vous publiez « Être ou ne pas être européen » chez Belin. Alors avez-vous, comme Paul Taylor dans la revue Le Débat, le blues de l'Europe aujourd'hui ?
Oui, je crois que beaucoup on se blouse et on est, si vous voulez, en pleine contradiction, en pleine ambivalence. Il y a en même temps un euroscepticisme croissant depuis les années 90 et en même temps ce blues de l'Europe. Moi j'aimerais attirer l'attention sur un fait que j'appellerais historique et qui a peut-être pas été assez souligné par les médias. Ça se passe à Londres le samedi 23 mars, il y a pas très très longtemps. Une énorme manifestation d'un million de personnes pour le Remain, pour rester en Europe et pour affirmer l'identité britannique, l'identité européenne de ceux qui manifestent. Or, cette manifestation, et c'est la première fois dans l'histoire, c'est une marée de drapeaux européens. Est-ce que vous avez vu sur le continent des manifestations pro-européennes avec cette marée de drapeaux européens? On l'a pas assez dit. Et en plus, c'est un paradoxe, puisque cette marée de drapeaux européens a lieu dans le pays qui symbolise d'une certaine manière l'euroscepticisme. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que, oui, l'identité européenne est faible, trop faible aux yeux de certains. Elle est faible surtout par rapport aux identités nationales. C'est incontestable. Mais lorsque certains ont l'impression d'être au bord de la perdre, eh bien, ils réagissent. Alors, même s'il ne s'agit que des gens du Remain, c'était seulement 48%, mais seulement, c'est quand même beaucoup, 48%. Mais ça montre bien que l'identité européenne, elle est faible, mais elle existe et qu'on ne peut pas l'arrayer d'un revers de main. De ce point de vue, le Brexit, je crois, est un laboratoire d'identité. On parlait tout à l'heure des différentes identités qui font l'identité britannique, mais aussi cette articulation complexe entre identité européenne et identité nationale, elle est pas simpliste. Et l'erreur des populistes de Grande-Bretagne, c'est d'avoir cru que, chacun a une identité exclusive. C'est faux, et c'est parce que précisément les identités ne sont pas exclusives, elles sont multiples dans chaque individu, que c'est difficile de trancher par un simple référendum, c'est pas par un simple oui ou par un simple non que peut trancher cette question identitaire, et on voit bien la difficulté de sortir des pièges, des contradictions du Brexit pour ces raisons-là.
Vous pensez, Robert Franck, qu'on n'est pas assez en dehors de la Grande-Bretagne, pas assez au bord de la perdre pour qu'on ne se manifeste pas comme ce million
d'une certaine manière, oui, mais
à Londres.
D'une certaine manière, oui, mais on va quand même se réjouir du fait qu'on ne va pas la perdre. Et moi, ce qui me frappe, là également, c'est l'énorme différence qui existe entre les populistes de Grande-Bretagne et les populistes continentaux. Les populistes du continent ne demandent ni le Polexit, ni l'Ungarexit. En France, Marine Le Pen non seulement ne demande pas le Frexit, mais...
Ils ont été vaccinés par la difficulté de sortir.
Non, c'était même avant le Brexit. Je crois qu'ils ont conscience que sur le continent, cette identité européenne est faible, mais finalement, elle existe, et même l'euro est relativement populaire, même si la politique de l'euro n'est pas forcément toujours la bonne, même si elle amène une certaine austérité, elle reste populaire, d'où ce changement de cap du Front National, devenu Rassemblement National, puisque à une époque... ce parti demandait la sortie de l'euro et maintenant il n'en est plus question. D'où une contradiction d'ailleurs, une contradiction qu'on a envie de souligner, puisque les populistes veulent avoir la majorité pour casser l'Europe de l'Union européenne de l'intérieur. Pourquoi ne vont-ils pas jusqu'au bout de leur logique et demander la sortie de l'Union européenne? Pourquoi n'ont-ils pas le courage de ceux qui ont fait cela de l'autre côté de l'autre côté de la Manche? S'ils ne font pas, il doit y avoir des raisons. C'est qu'ils sentent bien que ce sont des idées qui ne passeraient pas.
Et les populistes cherchent à s'allier. Hier, ici même, Matteo Salvini et Marine Le Pen se sont rencontrés. Ils ont tous les deux exprimé leur volonté justement d'une extrême droite européenne et de s'allier pour peser dans ces élections. Vous pensez, comme le gouvernement, que cet axe progressiste contre populiste est l'axe central des élections qui vont se jouer le 26 mai prochain, Robert Franck?
C'est un des axes, mais effectivement, c'est pas le seul. Donc peut-être polariser le débat en deux camps n'est pas forcément la bonne chose. En revanche, c'est vrai que même s'il y a une diversité dans les sensibilités pro-européennes, et elles doivent s'exprimer hein, les unes et les autres, elles doivent en même temps avoir un discours commun anti-populiste pour précisément montrer les contradictions du populisme par rapport à l'Europe. Cette extrême droite a malgré les apparences du mal à s'unifier. Et c'est normal, puisqu'ils sont souverainistes, donc c'est le chacun pour soi. Comment voulez-vous, quand on dit chacun pour soi, s'allier avec d'autres gens qui disent aussi chacun pour soi? C'est même là une contradiction structurelle.
Là, on parle de la France, de l'Italie, on peut penser à l'Allemagne, on peut penser à différents pays dont les extrêmes droites peuvent s'allier. Est-ce que vous qui êtes un spécialiste à la fois de l'Europe et des relations internationales au sein de l'Europe, vous pensez que les relations entre pays sont en train de bouger dans l'histoire? Est-ce qu'il y a des changements que vous constatez aujourd'hui?
Au niveau du monde?
Ouais. Ah oui. Non, au niveau de l'Europe, entre les pays, au niveau de l'Europe.
Oui, mais c'est aussi...
Des alliances, justement, qui sont en train de se faire.
Les alliances entre pays, c'est difficile, parce que il peut y avoir des alliances idéologiques, mais chaque pays a son intérêt national, et on le voit bien, la Pologne qui est tenue par les populistes, la Hongrie est tenue par les populistes, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est toute cette unité de tous les pays européens face à la Grande-Bretagne, hein, pays gouverné par des populistes, y compris. Voilà, donc c'est, je crois que tout va dépendre aussi des alliances du côté des pro-européens, tout va dépendre du couple franco-allemand, et là, bien entendu, c'est peut-être là le plus grand danger. Si le couple franco-allemand ne fonctionne pas bien, l'Union européenne risque de mal fonctionner également.
Certains disent aujourd'hui que c'est le moment de vérité, que l'heure est grave, qu'il est minuit moins 5 en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses, Robert Franck, ou est-ce que vous pensez, comme l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, le fait ce matin dans Le Parisien, que cette élection donne lieu à une agitation inutile?
Non, il n'y a pas une agitation inutile. Il faut espérer qu'il y ait un débat. Il faut espérer qu'il y ait un débat européen.
Alors, il y a eu un premier débat télévisé, nous en avons parlé tout à l'heure dans la fabrique médiatique, entre les 12 têtes de liste françaises aux élections européennes. Vous aimeriez qu'il y ait un débat entre pays, justement?
Oui, ce débat pourrait être transnational, précisément. Et c'était même la vision et la volonté de Valéry Giscard d'Estaing. Mais là, je parle du temps où il était président de la République, et de Helmut Schmidt, lorsqu'ils ont voulu cette élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Ils espéraient un espace public européen. Hein, c'est-à-dire où vraiment les Européens discuteraient entre eux et pas seulement cloisonnés dans leurs espaces nationaux. Et malheureusement, jusqu'alors, les débats et les discussions sont restés cloisonnés.
Pourquoi
dans l'espace
ça échoue
national.
Ça, cet espace public européen.
Je crois que l'Europe, c'est compliqué à expliquer. L'Europe, c'est compliqué, donc, si vous voulez, les médias ont du mal à expliquer, et si vous voulez, la politique intérieure l'emporte souvent sur la politique extérieure, donc ce sont les...
Et l'économie sur la politique.
Et l'économie sur la politique, donc voilà, parfois le débat pour l'élection européenne, ça sera en fonction des enjeux nationaux du moment. Ça sera pour rejeter ou au contraire approuver tel gouvernement en place ou tel président en place. On a du mal donc à parler européen. Il faut vraiment une crise pour que l'on parle européen.
On y est ou on n'y est pas dans cette
crise? Alors justement,
historiquement parlant, est-ce que c'est une crise plus profonde que les précédentes? On a dit aussi que l'Europe, Jacques Delors disait que l'Europe s'était construite sur les crises successives.
Oui, tout à fait. Et même cette histoire cyclique de la construction européenne, les crises jouent un rôle important. Le seul problème, c'est que ça marche un peu moins depuis 2005. Depuis les deux référendums français et néerlandais qui ont été négatifs, les crises ne produisent pas des relances. Jusqu'alors, il y avait des relances. Et là, on est en panne de relance après les crises. Si on doit comparer...
C'est plutôt la dépression, là.
Donc, plutôt une dépression. Mais l'espoir qui peut sortir de tout ça, c'est que d'un côté, il y a une crise britannique profonde, bien plus profonde que la crise européenne. Les Britanniques ne reconnaissent pas leur pays. Les Britanniques pensent que depuis Cromwell, ils n'ont jamais connu ces clivages, hein, depuis la guerre civile.
Le pays est profondément divisé.
Hein, non seulement entre nations qui constituent le Royaume-Uni, mais à l'intérieur de chaque nation, et en particulier chez les Anglais. Alors, sur le continent, je dis pas que ça aille très bien. On a effectivement cette montée des populismes et ces sociétés européennes continentales qui marchent mal. Mais peut-être que le Brexit peut effectivement être un moment de sursaut, hein, puisque précisément, finalement, personne ne veut sortir de l'Europe sur le continent. Et ce sursaut peut effectivement alimenter un débat européen intéressant, du moins on peut l'espérer.
Robert Franck, la une du Parisien aujourd'hui en France, c'est donc pourquoi il faut voter ces élections européennes. Je vous retourne la question.
Justement, il faut voter pour savoir quelle Europe on veut. S'il y a Brexit, s'il y a montée des populismes, ça prouve bien que l'Europe ou l'Union européenne, même si elle est plus forte qu'on le croit, elle ne fonctionne pas très bien. Donc, quelles sont les réformes qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une Europe de la sécurité? Ou comment est-ce qu'on conçoit la politique de l'euro? Cette politique de l'euro a donné lieu à des politiques d'austérité, parfois draconiennes, comme en Grèce, etc., etc. Est-ce qu'il faut envisager une politique monétaire et économique plus large et qui tienne compte des perspectives de croissance. Voilà, il y a toute une série d'enjeux sur lesquels il faut effectivement que les Européens non seulement débattent, mais donnent des perspectives. Et là, un véritable débat démocratique transnational est urgent.